L'évangile de Luc, chapitre 7. Évangile de Luc, chapitre 7. J'ai donné le titre à ce message, Le jour où la mort a rencontré la vie à la porte du Nain. Le jour où la mort a rencontré la vie à la porte du Nain. Naïn, pardon. Donc, Luc chapitre 7, nous sommes dans une petite ville en Judée, nous allons partir en voyage, nous sommes dans une petite ville en Judée, le Seigneur Jésus va entrer dans cette ville et ce qu'il va faire dans cette ville va susciter de la joie et des questions dans le cœur même d'un grand homme. Je ne sais pas où deviner c'est qui, le plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes, selon la parole de Jésus. C'est Jean-Baptiste. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. On va lire Luc chapitre 7 à partir de verset 19 jusqu'à 22. Luc chapitre 7 à partir de verset 19 jusqu'à 22. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, le sourd entend, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oui, Jésus vient vers Naïn, une petite ville dans le Judée, et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin. Maintenant, nous allons lire à partir de verset 11 jusqu'à 17. Le même chapitre, Luc 7, 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre à mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Normalement, c'est le frère Marcel qui devrait partager la parole de Dieu pour nous ce matin. Et comme vous le savez, il est en voyage vers son pays d'origine pour assister aux funérailles de sa maman. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le prédicateur qui est important, mais la parole de Dieu qu'il prêche. Souvenez-vous que Dieu a même utilisé une ânesse dans l'Ancien Testament. Donc, il peut utiliser n'importe qui. Et voici, nous avons ce petit récit tiré de l'évangile de Luc qui nous raconte un parmi plusieurs miracles que le Seigneur Jésus a fait durant son ministère terrestre. En effet, cela peut être compté comme le dixième miracle de Jésus. Et ce passage se trouve uniquement dans l'évangile de Luc. C'est seulement le médecin Luc qui nous raconte cette histoire. Et on ne trouve pas cette histoire dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Jean. À première vue, nous comprenons que Jésus ressuscite un jeune homme qui est mort, qui était le fils unique de sa mère, qui était déjà veuve. Si vous voulez, l'histoire, c'est tout. Ou combien de fois nous tous, nous avons négligé de regarder la parole de Dieu dans son profondeur. Il faut plonger dans la parole de Dieu, elle contient des trésors cachés. Quand je crois connaître, quelqu'un dit, quand je crois connaître, je ne connais pas encore comme il faut connaître. Quand je crois connaître, je ne connais pas encore comme il faut connaître. Parfois, on a ce préjugé que nous connaissons ce passage. Nous connaissons la parole de Dieu. Je connais l'évangile. Non, nous ne connaissons pas comme il faut connaître. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le Seigneur dans la Bible. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc nous allons nous arrêter un peu pour connaître Jésus, notre Dieu, davantage. Le verset 11 commence ainsi. Le jour suivant, nous allons passer au passage, Luc 7, verset 11. Le jour suivant. Et si nous lisons les premiers 10 versets de ce chapitre 7 de l'évangile de Luc, nous pouvons voir ce que Jésus a fait juste avant de ce récit. Nous n'aurons pas le temps de lire maintenant, mais Jésus guérit le serviteur mourant d'un officier de l'armée romaine. Et juste après, nous voyons que Jésus arrive dans une autre ville, 40 kilomètres plus loin de Capernaüm. Le serviteur de l'officier, de centenier, se trouvait à Capernaüm. Et maintenant, il voyage 30-40 kilomètres plus loin et il arrive dans cette ville qui s'appelle Naïm. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Si nous voyons la vie de Jésus-Christ pendant ces 3 ans et demi, qu'il a fait son ministère sur cette terre, si nous nous demandons qu'est-ce qu'il a fait, il a fait plein de choses. Et l'apôtre, il dit que le monde ne peut pas contenir si on commence à raconter tout ce qu'il a fait. Il a fait autant de choses, jour après jour, heure après heure. Je ne sais pas combien de milliers de personnes il a rencontrées. Le jour suivant, le verset 11, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, comme il était annoncé de lui par des prophètes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvre la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je pense que nous trouvons ce passage en Isaïe. C'était dit par le prophète Isaïe. Et encore, mais quand Jésus entre dans le temple pour lire le rouleau, il lit ce passage qui parle de lui, qui parle clairement de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Lorsque nous lisons le verset 17, le verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Nous voyons que Jésus ne se promenait pas sans but, mais par contre, son agenda était bien rempli et programmé. Il n'a jamais demandé qu'est-ce qu'on fait demain ou qu'est-ce qu'on va faire ce matin. Il n'a jamais demandé ainsi. Son ministère terrestre de 3 ans et demi a été bien programmé. Nous ne devions pas oublier que Dieu lui-même, le Dieu souverain, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu trois fois saint, a marché sur cette terre. Dieu lui-même a marché sur cette terre. Et quelqu'un qui a dit, ce n'est pas grand-chose que l'homme il a marché sur la lune. C'est merveilleux que Dieu il a marché sur cette terre. Il était en train de chercher les hommes, les êtres humains, perdus comme vous et moi. Dieu marchait sur cette terre. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, les rencontres des personnes avec Jésus n'ont jamais été par hasard. Le frère, dans son prière, il a dit, ce n'est pas par hasard que nous sommes là ici, ce matin. Et donc, il y a plusieurs rencontres. Jésus a rencontré plusieurs personnes dans sa vie. Et aucune de ces rencontres, c'était par hasard. Car le hasard n'existe pas dans l'agenda de Dieu souverain. Les hommes peuvent le croire et décrire les circonstances dans leur vie comme coïncidence. Mais pour Dieu, non. C'est dans la volonté divine qu'il rencontre chacun de ses créatures, de ses enfants. Certains ont cherché Dieu et Dieu les a trouvés. Comme c'était dans l'histoire de Zachée, et d'autres n'ont pas cherché, mais Dieu les a cherchés quand même. Comme nous allons voir dans l'histoire, dans ce passage devant nous. Vous savez, le cortège funérailles, il part. Cette dame, la veuve, elle ne cherche pas Jésus dans le chemin. Mais Jésus, il vient trouver cette dame. Et par contre, dans l'histoire de Zachée, il voulait voir Jésus-Christ. Il voulait voir Jésus. Donc, nous connaissons l'histoire. Il a monté sur un arbre, il voulait voir. Et Jésus, il passe par le chemin, ce n'est pas encore par hasard, il s'arrête sous l'arbre, il regarde en haut, il demande à Zachée, descends-toi. Et si Jésus rencontre ce jeune homme mort lorsqu'il était sur le chemin d'un cimetière à la sortie de la ville de Naïn. Jésus rencontre ce jeune homme mort. Mais vous pouvez me demander comment il peut rencontrer un jeune homme mort. Et pour le monde, il était mort, mais pas pour le Seigneur. Lorsqu'il était sur le chemin d'un cimetière à la sortie de la ville de Naïn, Dieu rencontra l'Éthiopien, l'eunuque, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et si on peut arrêter ici pour comprendre comment il a rencontré cet eunuque par le biais de Philippe. Et Philippe, il était à Samarie. L'eunuque est retourné de Jérusalem. Il voulait retourner dans son pays. Et le Saint-Esprit, il appelle Philippe de Samarie. Il demande d'aller par ce chemin. Et dans le désert, les deux se rencontrent. Ça, c'est la rencontre de Dieu. Quand Dieu il cherche ses brebis, il le trouve. Il a rencontré cet homme éthiopien, l'eunuque, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et Jésus a rencontré Saul de Tarse sur son chemin déterminé à persécuter des chrétiens. Et Saul de Tarse, il était tellement déterminé, il voulait persécuter l'Église, les chrétiens. Mais le Seigneur, il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Le Dieu sauveur n'a jamais été loin de vous et moi. Savez-vous que c'est lui qui est venu chercher pour nous sauver? Si vous êtes ici pour la première fois, je veux que vous sachiez que Dieu n'est pas loin de vous. Mais on ne peut pas deviner que tout le monde est chrétien dans cette salle. Tout le monde a accepté le Seigneur dans cette salle. Vous pouvez me demander comment tu sais. Je sais parce que j'étais comme ça il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais assis dans une église, mais je n'étais pas sauvé. Et si vous êtes ici pour la première fois, je veux que vous sachiez que Dieu n'est pas loin de vous. Il vous cherche. Il sait exactement où vous êtes dans votre vie spirituelle, dans votre quête spirituelle. Celui qui a connu Nathan sur le figuier, c'est le même Dieu qui se tient à la porte et qui frappe. Il est là sur votre chemin difficile. Peut-être que vous êtes en train de passer par un chemin difficile, mais vous devrez savoir que Dieu, il croise votre chemin aujourd'hui avec sa parole. Dieu, il est dans votre chemin. Mais quand on pense à cette parole-là dans l'Apocalypse, je tiens à la porte, je frappe, mais seulement il y a une porte qui nous sépare de notre Sauveur. Il n'y a pas grand-chose. Ça suffit d'ouvrir la porte et il entre. Mais parfois, on pense que c'est tellement difficile. Ce n'est pas tellement difficile d'ouvrir une porte. Et qu'est-ce qu'on est compliqué, les hommes. Le verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre à mort fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Dans le verset précédent, nous avons lu que Jésus était suivi par ses disciples et une grande foule. Et ça n'aurait pas été du tout facile pour Jésus de marcher tout le temps avec une grande foule qui le suivait. Parfois, on peut admirer les VIP, les gens qui sont populaires, connus, mais leur vie, ce n'est pas facile. Tout le temps être entouré par beaucoup de gens. Mais pour Jésus, c'est plus que ça. Il y avait des milliers de personnes qui le suivaient partout, une grande foule. Et donc, c'était une procession joyeuse. La procession qui suivait Jésus, pour voir les actes bienfaisants de Jésus et pour entendre ses paroles. Et surtout, il y a certainement une grande foule qui aurait dû suivre Jésus-Christ pour ses miracles. La preuve qu'on a aujourd'hui, les églises, les salles sont remplies où il y a des miracles. Je ne sais pas, il y a vraiment des miracles, mais au moins, c'est la publicité pour le miracle. Il y a des gens, il y a la foule. Et les gens de cette époque n'étaient pas différents, même si Jésus il était là et il suivait pour le miracle. Et lorsqu'il fut près de la porte de ville, dans le temps ancien, chaque ville était gardée par des portes et entourée par une muraille. Je suis obligé de dire ça parce que quand on lit la Bible, les mots, on peut pas parfois comprendre comment il était décrit, pourquoi il y avait une porte pour une ville, parce que si vous demandez les jeunes, mais il n'y a pas de porte pour Paris, il n'y a pas de porte pour Londres. Dans le sud de la France, il y a une ville médiévale qui s'appelle Carcassonne, et nous voyons une ville bien conservée par des grandes portes et entourée par une grande muraille. Et pour nous, nous avons la porte de Paris. Heureusement, ça s'appelle porte de Paris, mais même s'il n'y a pas de porte. Donc, c'était une ville entourée par la muraille et par des portes, la ville de Naïn. Donc, quand Jésus, à la tête de cette grande procession, s'approche de la porte de cette ville de Naïm, une autre procession s'approche des portes de l'intérieur de cette ville. Donc, une procession. Je pense qu'on peut appeler une foule de gens qui voudraient entrer dans la ville, et une foule, une procession funéraille qui sort de la ville, car à l'époque, on n'enterrait pas les gens dans la ville, sauf le roi de Judée qui était enterré dans la ville de David, à Jérusalem. Sinon, on enterrait dehors de la ville. La mort, elle était amené dehors de la ville pour être enterré. Donc, il y a deux processions, mais on devrait un peu imaginer les choses, comment ça aurait pu être passé. Donc, il y a une procession qui entre et une procession qui sort de la porte. Et c'est là, cette procession était triste avec des gens qui pleuraient et lamentaient des décès d'un proche, un ami, ou simplement la mort d'un jeune homme qui est mort au printemps de sa vie. Quand quelqu'un perd un jeune, un proche qui est jeune, et ce n'est pas évident. Et donc le voisin, la voisine, la ville entière peut pleurer pour cette personne. Et il y avait aussi de pleureuses, pleureurs payés dans cette foule, car c'est ce qui était la coutume au Moyen-Orient à l'époque. Même dans les autres pays dans l'Orient, ça c'était la coutume. Et on paye les gens puisqu'ils peuvent créer une ambiance triste pour pleurer. Et la coutume demandait qu'on accompagne le défunt pour son enterrement même si on n'était pas la proche ou de sa famille. C'est une obligation culturelle. Donc si vous demandez pourquoi il y avait autant de foule, mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui, on ne fait pas les choses comme ça ici. Mais dans les autres pays, quand on amène un mort pour l'enterrement, et il y a tout le monde qui suit le cortège. Et même les gens qui ne sont pas partis du cortège, ils descendent de leur véhicule pour laisser le chemin par respect. Donc c'était une grande foule qui sortait de la ville. Et certainement, la tête de cette triste procession était une femme veuve qui était la mère de jeune homme mort, le fils unique de sa mère. Et certains commentateurs, ils pensent qu'à l'époque, ils demandaient la veuve de mener la procession car pour démontrer que c'est par Ève que le péché est entré dans la coutume juive. Ça peut être terrible et triste pour nous, mais c'est une, ça peut être une vérité. Et la façon que les femmes elles étaient traitées, et surtout les veuves étaient traitées, maltraitées, un peu partout dans le monde, même dans le pays de l'Ouest, à certaines époques. Et ce que nous voyons ici, dans le chemin poussiéreux, que les deux possessions se rencontrent face à face, à la porte de cette ville de Naïm. Une procession qui amène la mort pour enterrer, et à la tête d'une autre procession était Jésus qui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Donc, c'est curieux, n'est-ce pas? Et Jésus, le prince de la vie, qui devrait faire face avec la mort. Quand les hommes, ils amènent la mort pour enterrer, ils sont en face de Jésus-Christ qui a dit que je suis le chemin, vérité et la vie. D'un côté, les hommes qui portaient la malédiction de la mort sur leurs épaules, car il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tout ont péché. En face de cette procession triste était Jésus qui dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que vous voyez ce que, qui se passe ici? Le jeune homme, il était le fils unique de sa mère qui était veuve. Il était le fils unique. Le jeune homme qui est mort, le fils unique de sa mère, celui qui était tout pour elle, son gagne-pain. Nous comprenons qu'elle avait déjà perdu son mari. La Bible dit qu'elle était veuve. Son chagrin devrait être très grand. Elle était seule, abandonnée par le décès de son fils unique, que la grande foule qui le suivait partira une fois que son fils unique est enterré. Et tout est fini. La vie pour une femme qui devient veuve dans la société de cette époque était très dure. De nos jours, nous avons la sécurité sociale, le droit social, au moins dans ce pays de l'Ouest. Mais n'oublions pas que Dieu avait ordonné son peuple la loi pour protéger l'orphelin et les veuves. Mais aujourd'hui, les gens, ils oublient Dieu. Mais s'il y a des bienfaits, la bonne chose qui reste encore dans la loi humaine, ça vient de Dieu. Ton papa venait d'ailleurs. Et toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Et en Deutéronome 10, 18, nous lisons « Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne la nourriture et des vêtements. Mais les hommes ont toujours ignoré la loi de Dieu et désobéi ses commandements. Souvenons que Jésus a vu les deux pièces d'argent données par une pauvre veuve. Et Jacques, dans son épître, écrit, La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter l'orphelin et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 17. La psalmiste dit ainsi dans son psaume 68, « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le père des orphelins, le défenseur de veuves. » On appelle Dieu le père des orphelins, le défenseur de veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs, il les rend heureux. Le rebelle seul habite les lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marches dans le désert. Nous allons avancer vers le verset 13. Le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur, l'ayant vu la veuve, le cortège funéraire, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur voit toutes choses, n'est-ce pas? Rien ne peut échapper à son regard, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Parfois, nous oublions que l'Éternel, il nous voit. Quand on dit que je souffre beaucoup, Élie pensa que Anne était ivre, le moment de Samuel. Élie pensa que Anne était ivre, car il a vu son visage, mais Dieu l'Éternel a vu son cœur. Jésus lui-même avait une mère qui était veuve, que Jésus confia à son disciple Jean avant de donner sa vie sur la croix. Donc Jésus savait exactement la vie d'une veuve. Donc il a confié à sa mère, Marie, à l'apôtre Jean. Il était ému de compassion pour elle. On voit qu'il était ému de compassion. De nombreuses fois, la Bible fait référence à la compassion divine. 7 fois, nous avons dans l'Évangile l'expression « Jésus ému de compassion ». Cette expression caractérise le ministère de Jésus. Ému de compassion pour une foule languissante et abattue. Ému de compassion pour une foule languissante et abattue. Matthieu 9, 36. Ému de compassion pour une grande foule avec des malades. Matthieu 14, 14. Ému de compassion pour une foule ayant avec elle beaucoup de malades. Matthieu 15, 28 à 32. Ému de compassion pour un lépreux qu'il voit purifier. Marc 1, 41. Ému de compassion pour une foule qui était comme des brebis sans berger. Marc 6, 34. Ému de compassion pour une foule qui n'a rien à manger et qu'il voit miraculeusement rassasié. Marc 8, 2. Ému de compassion pour une veuve qui portait en terre son fils unique qu'il va ressusciter et rendre à sa mère. Luc 7, 13. Donc cette phrase émue de compassion, et je pense que nous sommes très loin pour comprendre c'est quoi d'être ému de compassion. Loin d'être indifférent devant la souffrance qu'il côtoyait chaque jour, Jésus était ému de compassion, remué au plus profond de son être, saisi dans ses entrailles, capable de pleurer avec Marthe et Marie devant le tombeau de leur frère Lazare, qui venait de mourir 4 jours auparavant. Et en Jean 11, 33-35, nous lisons, « Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens voir. » Et Jésus pleura. Il pleurait avec la foule. Et tel est notre Seigneur qui, quand il est venu dans la chair, qui habitait parmi les hommes, faibles comme nous sommes, il était chaque fois ému de compassion. Ce n'était pas des larmes de crocodile. Quand nous disons à quelqu'un, j'ai beaucoup de compassion pour toi, nous devrions poser la question à nous-mêmes. Est-ce que c'est vraiment la compassion que nous avons? Ou une simple sympathie? Ce n'était pas l'âme de crocodile, ni la sensiblerie, mais bien l'expression d'une véritable compassion. Le mot compassion signifie souffrir avec. Le mot compassion signifie souffrir avec. Le verbe original signifie pleurer des yeux et de la voix. Pleurer des yeux et de la voix, c'est-à-dire avec des sanglots, parfois parfaitement divins. Jésus est aussi parfaitement humain. Ça montre merveilleusement la nature de Jésus-Christ. Il était parfaitement divin et aussi parfaitement humain. On peut avoir pitié de quelqu'un et en rester là. La compassion est bien différente. Elle va au-delà du simple sentiment. Dans la Bible, c'est la seule fois, à part que Jésus, cette phrase est utilisée, ému de compassion, c'est pour le bon samaritain, qui était ému de compassion pour son voisin. La véritable compassion nous pousse à l'action en faveur de celui qui est l'objet. Si nous devrions dire que j'ai beaucoup de compassion pour toi, nous ne devrions pas simplement faire avec nos lèvres. Nous devrions agir à sa faveur. C'est ce que Jésus n'a cessé de faire durant son ministère, en consolant des affligés, en guérissant les malades, en délivrant les captifs, en restaurant des vies brisées, en sauvant des âmes perdues. Et ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui. Et c'est le même Jésus, c'est le même Seigneur. Il fait même aujourd'hui. Il libère les captives, il délivre les captives, il guérit le malade, il console l'affligé et il restaure les vies brisées. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous ici qui sont dans cette catégorie. Ou chacun, on peut tomber dans une de ces catégories. Et Jésus, il nous voit, il est aussi autant ému de compassion pour ses enfants. Bien souvent, dans les circonstances difficiles, nous ne savons pas quoi dire à la personne qui souffre. Et quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un perd son bien-aimé, être cher, souvent on ne sait pas quoi dire. Il ne faut surtout pas dire « ne pleure pas ». Mais Jésus l'a dit, mais surtout il ne faut pas dire « ne pleure pas ». La personne elle a bien la raison pour pleurer. Il a perdu quelqu'un qui est cher pour lui, un être cher. Humainement parlant, c'est normal que la personne pleure car il souffre. Il pleure quand son chagrin est grand. Et peut-être souvent, les gens disent ainsi car ils ne savent pas quoi faire pour les consoler. Parfois, quand on ne sait pas quoi dire, il ne faut pas dire. Il ne faut rien dire. C'est mieux. Mais on fait tous cette erreur. On dit que ne pleure pas parce qu'on est tellement maladroit. On ne sait pas quoi, comment agir. On dit ne pleure pas. Et nous, les êtres humains, nous sommes absolument incapables de faire quelque chose en face de telle situation. Ça, c'est la vérité. Mais Jésus fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus, il était ému de compassion et il dit, ne pleure pas. Nous voyons ici l'humanité, les divinités de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Des Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Seigneur qui pleura devant le tombeau de Lazare lui dit, ne pleure pas. Christ ayant souffert dans les chairs, dit l'apôtre Pierre, quand les hommes disent ne pleure pas, ça peut démontrer leur impuissance devant la situation. Mais quand le Dieu souverain, Dieu tout-puissant, dit ne pleure pas, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Si moi je dis ne pleure pas, je devrais pouvoir faire quelque chose pour la personne. Mais quand Dieu le dit, ne pleure pas, c'est le Dieu souverain, Dieu tout-puissant. Ce Dieu souverain a le pouvoir de changer votre vie. C'est lui qui tient la clé de la vie et la mort. Il est notre créateur. Il commande et tout obéit à sa voix. Il peut changer la situation de notre vie. Et il est le maître de toutes circonstances. Celui qui dit « ne pleure pas » peut faire changer tes circonstances ou des situations qui te font pleurer. Et c'est même Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur aujourd'hui. Pourquoi nous devrions pleurer? Il est la résurrection et la vie. Il est capable de ressusciter le sien, même s'il meurt. C'est pourquoi nous lisons en 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14, je vais lire. Nous ne voulons pas, frères, l'apôtre Paul écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, heureusement pour nous, Jésus il est déjà mort et ressuscité. Mais pour cette veuve de Naïn, Jésus il n'est pas encore ressuscité de la mort. Et donc, ce n'est pas la même chose. Mais Jésus, il a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Et le verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Mais Jésus, il aurait pu rien dire aussi. Comme il avait la puissance de faire ressusciter cet homme, il aurait pu manifester sa puissance et de ne pas dire quoi que ce soit. Mais Jésus, il a eu la compassion pour elle. Il console la pauvre dame. Il console premièrement la pauvre dame. Et ce n'est pas la première fois que on a ressuscité la mort. Élie, il a fait dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. Et son prédécesseur, son successeur a aussi ressuscité de mort. Et après, dans le Nouveau Testament, c'est la première fois. Après, Jésus va ressusciter la fille de Jairus. Et aussi, il ressuscite Lazare. Donc, même si ce n'est pas la première fois, et la pauvre veuve, elle n'a rien demandé à Jésus. Elle était complètement désespérée. Mais Dieu, il intervient dans sa vie. Il croise son chemin quand il amène le corps pour être enterré. Et quand il n'y a aucune espérance, Dieu, il est intervenu dans sa vie pour lui donner l'espérance, pour ressusciter son fils. Et la compassion, il agit, verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et donc, la compassion, il sort la main de sa poche. On peut avoir la compassion, on peut dire les belles paroles pour compatir avec nos proches. Mais il faut agir avec la main. Jésus, il s'approcha et toucha le cercueil. Vous savez qu'est-ce que ça signifie pour un juif? Toucher le cercueil d'un cercueil, il devient impur. Il devient impur. Il devrait passer par un rituel qui dure des jours. Il ne peut pas entrer dans le temple. Il ne peut pas rentrer chez lui. Donc ça signifie beaucoup pour un juif de toucher le cercueil. Mais le Seigneur, il est le Seigneur de la vie et la mort. Rien peut, son sanctité, sa sainteté sort de lui. mais le souillure n'atteint pas le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, lui, il a touché les lèpres, lépreux. Le lépreux, c'est une maladie contagieuse, donc c'était impur. Mais le Seigneur Jésus, il a touché le lépreux. Il a touché le mort. Donc, il s'approcha, il toucha le cercueil. Peut-être qu'il arrêta le cercueil. Quand il toucha, ce qu'il portait, le cercueil, il s'arrête. Et Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Ce n'est pas une requête, mais c'est une commande. Tout obéit à sa voix. Les oiseaux du ciel et les poissons dans la mer, les animaux de la forêt et aussi le mort. Normalement, le mort, il ne peut pas entendre, n'est-ce pas? Le mort, il ne peut pas entendre. Mais Jésus l'ordonne, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et ce qui se passe, le verset 15, « Et le mort s'assit et se mit à parler. » C'est là le miracle de Dieu. C'est là le miracle divin. Le mort s'assit et se mit à parler. Et tout de suite, mais parfois, à nous, nous sommes assis ici comme les morts. Nous n'entendons pas la parole de Dieu, même si quand Dieu il parle. Je ne parle pas dehors aujourd'hui, mais quand je suis assis là et nous n'entendons pas la parole de Dieu, Dieu il parle, on est comme des morts. Ça n'entre pas. Et on ne peut pas, même la parole de Dieu parfois, elle trouve mal à nous redresser dans notre siège. Et on ne bouge pas. On vient, on entre comme le mort et on sort comme le mort. On vit comme les morts. Mais Dieu ne veut pas cet état. Il ne veut pas cet état en nous. Et le jeune homme s'est mis à, et le mort s'assit et s'est mis à parler. Donc, c'est la première réaction de la vie, c'est de parler. C'est une belle chose, n'est-ce pas? De mettre à parler. Et si on est vivifié par le Saint-Esprit, nous, si nous sommes ressuscités par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, nous devrions aussi parler de Dieu. Nous devrions parler. Nous devrions parler. On ne peut pas. Parfois, c'est miraculeux de savoir que les gens qui sortent à la porte, ils sont en train de parler autre chose, complètement autre chose. Ils ne parlent pas de bienfait de Dieu. Ils ne parlent pas de la merveille que c'est caché dans sa parole. On complètement, d'une minute à une autre, on déconnecte, on parle complètement autre chose. On peut parler de toute autre chose que la parole de Dieu. Et c'est les gens qui sortent de l'église. Nous devrions réfléchir, est-ce que c'est normal que nous conduisons ainsi, nous les enfants de Dieu? Et le jeune homme se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. La mère, elle a perdu son seul fils, le fils unique. Elle rend à sa mère. Et tous furent saisis de crainte. Verset 16. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Visiter, c'est descendre pour faire du bien, pour montrer la grâce. Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et maintenant, nous étions tous, comme nous avons beaucoup parlé ce matin d'Éphésiens 2, nous étions autrefois comme des morts. Nous n'avions pas la capacité d'entendre la parole de Dieu. Nous étions sur le chemin de destruction. Comme ce jeune homme mort, il était amené au cimetière pour être enterré. On était moitié enterré, complètement mort et moitié enterré. Mais Dieu, par sa grâce, a croisé notre chemin. C'est par sa grâce que Dieu nous a parlé. Il a commandé la vie en nous. Il a donné la vie nouvelle. Il nous a ressuscités. Et maintenant, c'est la question, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour lui? Et la commande de Jésus, le commandement, le dernier commandement, c'est aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Est-ce que nous sommes en train de faire ce que Jésus nous a commandé? Que le Seigneur nous aide à réfléchir, à méditer sa parole et vivre cette vie nouvelle pour lui, pour toujours. À Dieu soit la gloire. Amen.